Depuis hier, c'est l'Inde qui préside le G20, le groupe des 20 plus grandes économies mondiales. À cette occasion, le Premier ministre indien a appelé à mettre fin à la guerre en Ukraine. Une pique adressée à son allié russe. L'Inde joue un rôle de pivot entre l'Occident, la Russie et la Chine. Et Narendra Modi espère profiter de la visibilité offerte par le G20 pour rebattre les cartes et entrer dans la cour des grands. Bonsoir Jean-Luc Racine.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior au Think Tank Asia Center à Paris. L'Inde n'a jamais condamné officiellement l'invasion russe de l'Ukraine. Comment comprendre ces déclarations d'hier ?
La déclaration d'hier sur l'Ukraine, entendons-nous, disant notre époque n'a pas à être celle de la guerre, n'est pas nouvelle. Narendra Modi l'avait déjà formulé à Vladimir Poutine lorsque les deux leaders s'étaient rencontrés il y a quelques semaines en Asie centrale pour la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. En même temps, l'Inde fait partie de ces quelques dizaines de pays qui n'ont jamais clairement condamné l'agression russe, tout en appelant à une paix dont on voit mal comment elle pourrait évidemment être déterminée rapidement aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, elle cherche une espèce de voie médiane. D'un côté, elle est alliée. Allié n'est pas le mot. L'Inde refuse
proche,
des alliances.
On va dire proche,
elle est partenaire. C'est plutôt le terme. Elle est partenaire donc du fameux Quad États-Unis, Inde, Japon, Australie, qui entend se déployer dans l'Indo-Pacifique. Mais elle est aussi, je le disais, membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, une initiative chinoise et russe pour assurer la stabilité de l'Asie centrale. Donc il y a une particularité géopolitique qui s'ancre aussi dans une certaine vision de soi. L'Inde considère que dans le monde multipolaire, elle est et elle sera un pôle. Même si aujourd'hui, il faut bien le dire, l'Inde reste une puissance émergente par rapport au statut effectif de la Chine. Une Chine avec laquelle elle a d'ailleurs des problèmes frontaliers. Et les relations entre les deux pays sont moins que tièdes aujourd'hui.
Est-ce que l'Inde peut jouer un rôle d'apaisement entre les pays du G20, comme je dirais un non-aligné, pour peu que le terme s'applique encore ?
Oui, mais en réalité, l'Inde des nationalistes hindous, avec Narendra Modi à sa tête, entend en quelque sorte jeter l'héritage de Nehru dans les poubelles de l'histoire, mais de facto, elle continue une certaine forme de non-alignement. Elle entend, vous l'avez dit à juste titre, profiter de cette opportunité peut-être plus que d'autres. Faut rappeler que la présidence du G20 tourne chaque année, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que l'Inde soit aujourd'hui présidente de ce groupe des grandes puissances économiques. Mais pour le Premier ministre Modi, qui est un homme et un parti derrière lui, qui travaille beaucoup les questions de discours, de rhétorique, voire de propagande, c'est une opportunité, d'autant plus que donc, le mandat indien va du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023, et en 2024, l'Inde connaîtra les nouvelles élections législatives. Donc on voit bien qu'il va y avoir un discours sur le rôle de l'Inde dans la communauté internationale, qui va être aussi mis à profit sur un plan électoral. Le discours, c'est le slogan que Modi a lancé il y a deux jours, une terre, une famille, un avenir pour l'ensemble de l'humanité. Une terre, on comprend pourquoi, un avenir, on comprend pourquoi. Une famille, ça renvoie à une vieille notion sanscrite selon laquelle le monde est une seule famille. Donc on a là une rhétorique habituelle au pouvoir, mais vous l'avez dit aussi, qui lance des pics sur des affaires contemporaines. Ça peut être aussi bien les allusions à l'Ukraine, en disant donc que l'époque n'est plus à la guerre, mais c'est aussi une pique contre l'Occident à propos de la lutte contre le Covid, en rappelant que l'essentiel des vaccins sont, je cite, en gros, monopolisés par quelques pays, alors que le reste du monde est dans une grande difficulté à cet égard. Donc, on retrouve toujours ce jeu de balancier qui s'appuie à la fois sur une certaine tradition géopolitique indienne et sur une vision spécifique du nationalisme hindou qui entend promouvoir une sagesse éternelle, y compris, bien sûr, en rappelant les traditions spirituelles du pays.
L'Inde, on le sait, aspire à devenir une grande puissance. Elle en rêve. Mais en a-t-elle les moyens?
Alors, c'est évidemment la question décisive. Elle est incontestablement une puissance émergente. Mais je le disais tout à l'heure, l'économie indienne aujourd'hui, est un peu à la traîne, même si le discours, qui n'est pas faux, est de dire que parmi les grandes puissances économiques, l'Inde est celle qui croît le plus vite, mais sa croissance baisse régulièrement. D'un côté, de l'autre côté, la dissymétrie avec la Chine est évidemment frappante, puisque aujourd'hui, la puissance économique chinoise, c'est 5 fois l'économie indienne. Ça n'empêche que l'Inde essaie de moderniser ses forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, puisque là encore, l'océan Indien, c'est un enjeu central vis-à-vis de la Chine qui étend son influence. Donc, elle est en route avec un horizon qui est 2047, le centenaire de l'indépendance de l'Inde, où là, nous dit le pouvoir, en 2047, l'Inde sera leading power, excusez l'anglicisme, mais donc, faut se rappeler aussi que 2 ans après, ce sera le centenaire de la révolution chinoise, donc les deux géants asiatiques, finalement, sont un peu sur le même calendrier pour célébrer à l'avance ce que seront leurs accomplissements en un siècle.
Merci beaucoup Jean-Luc Racine. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior au Think Tank Asia Center à Paris. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci.